Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour ouvrir donc Cœur de patrimoine, on accueille Charles-François. Bonjour Charles.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, président, cofondateur de A3 Patrimoine. Et je le disais en introduction, on va parler avec vous de la gestion de trésorerie excédentaire. Là, on parle vraiment de dirigeants d'entreprise, etc. Et vous estimez, Charles, que c'est plutôt le parent pauvre de la gestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise. Pourquoi, selon vous, ce sujet qui apparaît pour le quasi-néophyte que je suis en gestion d'entreprise, quelque chose d'important, sa trésorerie excédentaire? Pourquoi est-ce que vous dites c'est peu traité par le dirigeant, en fait?
Il y a plusieurs raisons déjà qui font que je dis à chaque fois que c'est le parent pauvre de la gestion de patrimoine. La première raison, c'est une raison chiffrée, qui est qu'en France, on a 68 millions de personnes et 3 millions d'entreprises. Donc les cabinets de gestion de patrimoine vont aller plus volontiers accompagner les dirigeants ou les Français lambda pour la gestion de leur patrimoine plutôt que les sociétés qui sont devenues un petit peu une activité de niche dans le monde de la gestion patrimoine. Ça, c'est la raison un petit peu rationnelle. Ensuite, il y a d'autres raisons qui sont celles-ci un petit peu plus psychologiques liées aux dirigeants d'entreprise. C'est que très souvent, les dirigeants que l'on rencontre, nous, régulièrement dans le cabinet A3 Patrimoine, pensent que leur trésorerie d'entreprise, elle doit être absolument mise sous cloche. On ne doit absolument pas y toucher, on doit la préserver. Alors, c'est vrai, mais justement, du fait qu'on doive la préserver, il faut s'y intéresser et la placer. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les dirigeants d'entreprise pensent que la gestion de cash excédentaire est réservée aux grosses structures. Ça, c'est absolument faux. Dans le monde des conseillers en gestion de patrimoine, on peut adresser de la gestion de trésorerie d'entreprise à partir de 50 000 euros. Il faut le savoir et c'est assez peu connu. Et ensuite, le troisième biais que nous observons toujours, c'est que très souvent, ces mêmes dirigeants pensent que ce sont essentiellement les holdings patrimoniales qui ont besoin d'accompagnement, alors que non, nous avons des offres pour les sociétés commerciales. Et enfin, la partie expertise comptable aussi, c'est souvent de l'expert comptable que doit venir le premier tilt par rapport à ce sujet.
Ouais. Du coup, quand on est né dirigeant, peut-être qu'on vous entend ce matin, on se dit « Ok ». Visiblement, il faut que je m'y intéresse, faut que ça bouge, mais on commence par quoi ?
On commence par...
Si on a envie de traiter de ce sujet.
Bien sûr, il faut bien commencer par un sujet. Le premier, c'est de faire un point avec son expert comptable. J'en parlais précédemment. L'expert comptable va permettre d'analyser cette trésorerie, puisque la trésorerie, on peut la compartimenter en trois parties. La première, ça va être le BFR, le besoin en fonds de roulement. C'est la trésorerie qu'on va rendre utile pour le fonctionnement de la société. Schématiquement, entre le moment où on doit payer la matière première et le moment où on encaisse le produit fini, la vente du produit fini, on a besoin de trésorerie pour payer les charges courantes, les salariés, etc. Cette partie-là, on n'a pas à l'utiliser, on n'a pas à la toucher, elle est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ensuite, le deuxième niveau de la trésorerie d'entreprise, ça va être la trésorerie de précaution. Celle-ci, on doit la garder en cas de coup dur. On la place à très court terme sur des choses qui sont garanties. Là, pareil, on a peu de moyens d'optimiser cela, mais il faut quand même pouvoir la différencier. Ensuite, là où il y a un vrai sujet, c'est sur la troisième partie de la trésorerie d'entreprise. Cette trésorerie que l'on peut placer à moyen-long terme. Moyen-long terme, trésorerie pour des sociétés, ça va être à horizon 3-5 ans avec un profil assez équilibré. Mais la première étape, donc, lorsqu'on est dirigeant, c'est de se rapprocher de son expert comptable et d'analyser cette trésorerie et de pouvoir la compartimenter avec ces trois sous-blocs.
Enfin, excusez-moi Charles, les horizons de placement sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais on n'est pas loin de la gestion de patrimoine du particulier, j'ai envie de dire, entre le livret A, on a d'ailleurs les mêmes produits en fait, on peut, le dirigeant d'entreprise, il peut partir sur le même raisonnement, entre guillemets, il a finalement un champ des possibles qui est similaire entre lui, dirigeant d'entreprise, enfin personne morale donc, et ce qu'il fait lui en tant que particulier ?
Alors c'est vrai que l'approche initiale est la même, puisqu'il faut compartimenter en fonction des besoins et des objectifs, mais le champ des possibles, effectivement, lui, est très différent. En tant que personne physique, on a accès à des livrets réglementés, le livret A, le LDD, le livret d'épargne populaire.
Ouais, et ça n'existe pas pour les boîtes.
On n'en a pas pour les personnes morales. Le contrat d'assurance vie, pareil, personne physique, c'est une belle enveloppe, on ne l'a pas pour les sociétés. Le PEA, idem pour la partie plus dynamique. Donc là, le champ des possibles est un petit peu restreint et pour la trésorerie de précaution, il n'y a même pas de choix à regarder, il faut se diriger vers les comptes à terme. Mais même à ce niveau-là, au niveau des comptes à terme, il faut bien penser à mettre en concurrence les différents établissements bancaires parce qu'il y a des vraies disparités par rapport aux taux qui sont servis pour cette partie trésorerie excédentaire. Ensuite, pour la trésorerie moyen terme, là, le champ des possibles est un petit peu plus vaste, mais quand même plus restreint par rapport à une personne physique, puisqu'on va aller chercher essentiellement trois typologies d'enveloppes. Nous, ce qu'on préconise chez A3 Patrimoine, ça va être de regarder aux alentours des comptes-titres ordinaires, donc des enveloppes bancaires, une enveloppe assez flexible que l'on peut ouvrir à partir de 50 000 euros, pas d'accès aux fonds euros, mais tout ce qui peut avoir un codisine peut être logé au sein d'un compte-titre. Ensuite, l'étape supplémentaire, ça va être cette fois le contrat de capitalisation qui ressemble un petit peu, que l'on peut définir comme le cousin du contrat d'assurance vie. Le contrat de capitalisation, lui, c'est un produit d'assurance. Donc, on peut avoir parfois accès avec quelques contraintes aux fonds euros. Donc, ça peut être intéressant pour un dirigeant d'entreprise qui veut avoir son capital garanti. Mais on peut également y loger toute une typologie de fonds obligataires, de fonds monétaires, de produits structurés aussi, de stratégies un petit peu alternatives telles les fonds long short, mais toujours avec une appétence, avec un risque qu'on va dire moyen, qu'on va qualifier de moyen, et sur une durée aux alentours de 3 à 5 ans. Ça va être sur les deux enveloppes financières, d'accord, le compte titre ordinaire, le contrat de capitalisation. On peut aussi aller chercher un petit peu de sujets immobiliers à travers un nom un peu barbare qui va être l'usufruit temporaire de SCPI. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ce terme-là qui est en fait pas très, très compliqué. Dans usufruit temporaire de SCPI, on va avoir les SCPI. Donc, rapidement, c'est investir dans une société qui va acquérir de l'immobilier, le gérer, on va récupérer une partie des loyers. Et l'usufruit, ça va être, pareil, schématiquement, pour l'acquisition d'un bien immobilier, on a la pleine propriété qui se divise en deux blocs, la nue propriété, la possession, et l'usufruit, le fait de pouvoir jouir des fruits, donc des loyers. Et cette partie-là d'usufruit temporaire de SCPI, elle va permettre à une société d'acquérir des revenus complémentaires, tout en amortissant cette partie-là. Donc, il y a un double gain, impôt sur les sociétés et en plus, revenus complémentaires. Donc, avec ces trois enveloppes, compte-titres ordinaires, contrat de capitalisation et usufruit temporaire de SCPI, on a de quoi faire une vraie belle stratégie.
On couvre finalement l'entièreté de la trésorerie excédentaire dont vous parliez au démarrage.
Voilà, toutes les classes d'actifs.
De cet entretien, Charles. Est-ce qu'il y a des questions fiscales qui doivent rentrer en ligne de mire ? Je suis désolé de ramener toujours tout à la fiscalité, mais...
On est en France, donc effectivement, il va y avoir un sujet fiscal par rapport au traitement de ces enveloppes. Et vu qu'on est en France, sur les trois enveloppes que je viens de citer, il y a trois fonctionnements différents.
Donc, ce serait trop simple.
Exactement. Donc, pour continuer sur la partie immobilière avec l'usufruit temporaire de SCPI, on a deux leviers. Le premier, c'est que cet usufruit, c'est un actif, donc on va pouvoir l'amortir. On va avoir un premier gain par rapport à l'impôt sur les sociétés, puisque ça représente une charge. Et en face, les loyers, eux, sont des revenus qui vont être soumis à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, pour le compte-titre ordinaire au niveau fiscal, comment est-ce que c'est traité ? C'est relativement simple, là, pour le coup. À chaque clôture d'exercice, au 31 décembre par exemple, on va regarder les plus-values, éventuellement compensées par quelques moins-values, et ce solde va être amené en résultat qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et là où ça se complexifie un petit peu, ça va être sur le contrat de capitalisation, quoique. Là, on va avoir une fiscalité qui va être fixe, qui va être calculée via une formule mathématique dès le début, donc je vous passe les détails. Mais là, on va avoir quelque chose d'assez figé tout au long de la durée de vie du contrat de capitalisation. Et lors de la clôture de ce contrat, on va ajuster en fonction de l'impôt sur les sociétés.
Bon, malgré tout, même si ça n'apparaît pas d'une complexité folle, on sent que pour les différentes cases, pour les différents produits, c'est plutôt pas mal d'être accompagné. Vous n'allez pas me dire que non. Mais ça a un coût, ça, j'imagine aussi. Le chef d'entreprise, il faut qu'il fasse appel à son CGP. Combien ça va lui coûter, par exemple, de, entre guillemets, faire gérer sa trésorerie par Charles-François?
Oui, c'est une vraie question que les dirigeants peuvent se poser. Alors, sur la partie trésorerie de précaution, sur les comptes à terme, il n'y a pas de frais. Ce sont les banques qui gèrent ça. On a un montant, un capital garanti. On a des intérêts qui sont fixés au démarrage et qui sont donnés à échéance. Donc là, il n'y a pas de sujet. Si on revient à la trésorerie moyen terme, là, pour le coup, il va y avoir un coût qui va dépendre du modèle du conseiller en gestion de patrimoine. C'est toujours une dualité. La première partie, ça va être soit des rétrocessions, Donc là, une fois que l'enveloppe est ouverte, le compte titre ou le contrat de capitalisation, les frais sont prélevés par la banque ou la compagnie d'assurance et une partie est reversée au cabinet. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de facturation entre la société et le conseiller, puisque tout est pris sur le capital qui a été précédemment placé. Ou il y a un autre modèle qui est possible, c'est celui des honoraires qu'on essaye, nous, de mettre en place au sein du cabinet A3 Patrimoine. Et celui-ci, il a comme avantage que le cabinet peut s'occuper de la gestion d'enveloppes qu'il n'a pas dans son périmètre. Si un dirigeant d'entreprise a déjà un contrat ou un compte-titre ouvert précédemment dans sa banque parce qu'il aime bien sa banque pour une raison X ou Y, on peut se mettre malgré tout entre le client et cette enveloppe pour le conseiller, pour l'aider, pour l'accompagner. Et là, on facture des honoraires. L'avantage, c'est qu'on ne touche pas au capital, mais par contre, il y a une facturation qui est faite auprès de la société. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités sur ces stratégies-là. L'objectif final, toujours, doit être de faire travailler cette trésorerie d'entreprise, non pas pour faire des performances exceptionnelles, mais à minima pour couvrir l'inflation, puisque si on ne le place pas, on perd l'inflation et cette trésorerie-là perd de sa valeur. Donc, le premier réflexe, aller voir son expert comptable et ensuite être accompagné d'un conseiller si on en a un, ou sinon, nous, on est absolument à la disposition de ceux qui seraient intéressés.
Charles François, donc président cofondateur d'A3 Patrimoine. Et puis petite discrétion, parce que cette question entre rétrocession et honoraire, ça ne concerne pas que la gestion de la trésorerie excédentaire. C'est un débat qui agite tout le monde de la gestion de patrimoine depuis des années. Merci Charles et à bientôt.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.